sports divergent. Le sport d'ici, venu d'ailleurs, en 30 minutes chrono. Alors, sommaire de ce 30 minutes chrono, c'est le 18e de la saison. La chronique de la Babale Carrée va cette semaine s'amuser à vous conter quelques sports un peu particuliers. On les appelle les CELAC. Oh, c'est bizarre, c'est une abréviation péjorative, ça signifie sport à la con. Vous verrez, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez faire du bike polo, du hockey subaquatique, du kimball ou encore du foot golf ou pire, du pooling. Avec des tracteurs monstrueux, pour les filles, on a fait dans le sexy. Avec le 100 mètres en talons aiguilles ou le football américain qui a créé une ligue de lingerie football. Je remercie l'équipe magazine parue le 4 janvier dernier pour avoir réalisé un dossier complet sur les CELAC et leurs stars. Nous survolerons les dernières trouvailles pour faire du sport, disons, autrement. Il existe par exemple le chess boxing. On boxe et entre les rondes, on joue aux échecs. Je demanderai probablement à mon invité un commentaire. Ben alors, l'invité de 30 minutes chrono recevra plus sérieusement Hervé Louche, le président de l'échec club de Montpellier. Alors bonsoir.
Bonsoir.
Alors tout à l'heure on parlera un peu de chess boxing, mais surtout on parlera de votre club et des échecs sans qu'on ait besoin de prendre des gants de boxe.
D'accord.
Voilà. Alors donc nous parlerons de ce jeu fascinant qui se pratique dans le monde entier depuis des lustres. En plus de s'informer sur l'actualité du club phare de Montpellier, nous aurons une conversation sur l'histoire de ce sport peut-être, et puis la généralisation de l'informatique qui se transforme sans changer les règles générales, mais c'est souvent une arme aussi politique, les échecs, on parlera de tout ça tout à l'heure. Hein. Un président d'un grand club d'échecs a certainement l'esprit d'ouverture.
Bien sûr.
Ah, c'est sûr, et il nous dira si dans ces 64 cases, est-ce que tout est vraiment noir et blanc ? On verra ça tout à l'heure. Enfin, pour conclure, un rapide survol de quelques résultats, des échéances et des informations sur les surdoués de notre agglomération, en privilégiant, bien sûr, le sport de notre invité.
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues et des grisons, tous les vieux fourneaux prennent le genou pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Vous les connaissant, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez le prenez du bleu pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, entre vous plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant, petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan, petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
La chronique de la Babale Carrée. Alors vous connaissez certains SLAC. Si ce n'est pas le cas, je me charge de vous en parler. L'être humain a toujours inventé de nouveaux sports, mais là, il se surpasse avec ce que vulgairement parlant, nous appelons donc les sports à la con. Des exemples, je vous laisse choisir le vôtre, à moins que vous ayez décidé d'en inventer un nouveau. Pas si idiot des fois, il y a le bac polo qui a remplacé les chevaux par des bicyclettes. En plus limite, je vous propose le hockey subaquatique. Avec des mini-crosses, vous devez, en apnée, faire progresser un palais au fond d'une piscine. C'est très intéressant, peut-être un certain manque de visibilité. Reste encore le King Ball. Trois équipes sur le terrain, un énorme ballon de baudruche et interdit qu'il tombe à terre. Pour le reste, je n'ai pas tout à fait compris. Il y a quand même 400 licenciés en France. En beaucoup plus bruyant et anti-écologique, je vous recommande le track pooling, des monstres d'acier consommant 15 à 20 litres au 100, pas au 100 km mais au 100 mètres, et ils traquent une remorque de 25 tonnes, le but étant d'arriver à la ligne d'arrivée avec un bruit au-dessus du seuil de la douleur de l'ordre de 130 décibels. Il y a des spectateurs pour regarder ça, ils sont en délire dans des tribunes autour d'un champ de boue bien droit. Les champions européens sont néerlandais, mais nous en avons aussi bien de chez nous qui dépensent des fortunes pour faire ce sport pour riches paysans. Il nous reste pour nous défouler la coupe de bois sportive qui consiste à en épreuve à la tronçonneuse pour faire presque de la dentelle avec des rondins. Passionnant. Et puis un nouveau sport qui en allie deux. Alors je vous recommande avec notre ancienne gloire de l'OM Jean-Pierre Papin le nouveau et sauce smart foot golf. Désopilant avec leur tenue de golfeur et leurs chaussures de foot. On fait un 18 trous en jouant avec un ballon de football, évidemment, et il faut agrandir un peu les trous, mais pour le reste, c'est le même parcours que le golf. Il y a aussi le disque golf, sorte de parcours où les trous sont remplacés par des petits paniers, genre mini-basket, dans lesquels doivent atterrir votre frisbee de plage. En plus surprenant, il existe donc le chess boxing, qui allie le physique et le mental à la perfection, en mariant deux des sports les plus techniques du monde. Des rounds sur un ring, entrecoupés de diagonales du fou sur l'échiquier, et jusqu'à la victoire finale, mais le nul peut être toléré. Amusant de pouvoir taper sur son adversaire qui vous a mis en échec le coup précédent. Pour les filles, notre monde sexiste a inventé de nouveaux sports pour blondes, comme on dit dans des blagues faciles. Connaissez-vous, mesdames, mesdemoiselles, le 100 mètres en talon aiguille? Attention, minimum 7 cm de haut pour 1,5 cm de base. Pour information, le record du monde est détenu par une Allemande de 18 ans, 14 secondes 53, ce qui est phénoménal en talon aiguille. Le foot américain, lui, a inventé une nouvelle ligue intitulée la Lingerie Football League. En fait, c'est du foot ricain, mais vous mettez 7 joueuses d'un côté, 7 joueuses de l'autre, et vous les mettez en sous-vêtements sexy. Sport exhibition, si j'ose dire, débarqué en 2004 lors de la mi-temps de la finale du foot US, le Super Bowl. Il est maintenant devenu très prisé à la télé, non seulement aux States, mais aussi au Canada et en Australie. Je vous rassure, il débarque en Europe. À vos lingeries, mesdames, mais n'oubliez pas le casque et autres protections. En conclusion, comme le dit Johan Diniz, notre grand champion de marche à pied, à qui on répète souvent qu'il pratique un sport de débile. Et 11 mecs qui courent derrière un ballon, c'est pas un sport à la con ? Aujourd'hui, ce sera l'invité. Et ben voilà, donc, 30 minutes chrono, a le plaisir de recevoir Hervé Louche pour parler un peu de ce sport, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas d'abord que vous êtes considéré comme un sport, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. En effet, depuis 2000, nous sommes considérés comme un sport. C'est vrai qu'il y a eu des études biologiques qui ont montré qu'en effet, sur le plan physique, il y avait par exemple le syndrome du sprinter avant d'appuyer sur la pendule pour lancer la partie. Bien sûr, il y a une fédération sportive, donc avec des compétitions, voilà. Des divisions.
On va parler de tout ça ensemble. Alors, c'est un sport donc... affilié aux fédérations sportives, c'est ce que les gens ne savent pas forcément. Et puis, alors donc, un petit mot quand même sur le chess boxing, vous en avez entendu parler ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a 3 ans, nous avions un partenariat avec le club de boxe de Montpellier où on a expérimenté justement pendant 2 ans, avec le soutien de la ville, donc nous avons expérimenté le chess boxing. Donc les jeunes venaient donc au club pousser du bois, s'entraîner, puis ensuite ils allaient donc au club de boxe. C'était la tête et les jambes.
En fait, c'est un peu, c'est ce que j'allais dire. Ça allie les échecs allient vraiment une concentration maximum.
Oui,
ça,
c'est
le
clair.
Sport aussi.
C'est clair.
Hein, tous les sports, il faut quand même avoir de la concentration. Et comme je disais dans ma petite chronique, la boxe c'est très technique. C'est un sport extrêmement technique et le vôtre aussi.
Très technique.
Là, vraiment.
Très, très technique. Il fait appel en effet à des considérations stratégiques, à la tactique, au calcul, la concentration, la prise de recul, l'adaptation permanente, l'évaluation des situations, l'évaluation des positions. Donc en effet, il demande à la fois de prendre du recul et d'être aussi dans l'action. Et en effet, donc c'est un jeu qui demande, dans certaines phases de la partie, vous m'avez interpellé sur l'ouverture tout à l'heure, et en effet, il y a l'ouverture, il y a le milieu de jeu, un intermède logistique début, milieu de partie, et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les finales. Et en effet, les finales sont réputées pour être très techniques, et si en fait on accède facilement au jeu, la maîtrise, bien sûr... prendre toute une vie, voire une vie ne suffit pas
c'est ça.
À maîtriser les profondeurs.
Avec les échecs, si j'ai bien compris, on n'a jamais fini.
On n'a jamais fini. Ouais.
Alors même si maintenant, avec l'informatique, comme je vous disais, l'informatique a essayé de pousser très très loin de la numérisation de toutes les parties d'échecs et essayer de voir si on pouvait se mesurer à des joueurs. Alors je crois qu'il n'y a qu'une seule fois qu'un champion du monde a été battu par un ordinateur. Hein, c'était,
Kasparov, 92 contre Deep Blue. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, les ordinateurs sont extrêmement puissants et donc c'est très difficile, même pour des grands maîtres, de battre des ordinateurs aujourd'hui.
Mais pour vous, pour le joueur d'échecs ou pour vos jeunes qui commencent à apprendre, c'est peut-être intéressant quand même l'ordinateur pour les aider ?
Alors les jeunes aiment bien, en effet, c'est les nouvelles technologies. Enfin, ouais. C'est plus les nouvelles technologies, ouais. Mais depuis longtemps. Mais enfin, c'est vrai qu'ils aiment bien jouer sur Internet. L'avantage, c'est qu'en effet, on peut rencontrer des joueurs du monde entier, se connecter. Et c'est souvent les jeunes joueurs sont initiés par un parent, vont sur Internet. Et puis après, il y a un petit peu le virus de la compétition et du jeu. Voilà. Et donc, ensuite, viennent au club.
Voilà, mais rassurez-nous, bien entendu, ça n'empêche pas d'aller jouer contre quelqu'un quand même.
Bien sûr.
Hein, parce que bon, si on passe notre vie toujours derrière des tablettes ou des écrans, c'est quand même un peu...
Il y a l'aspect psychologique, en effet, on le retrouve moins dans le jeu par ordinateur. Donc, en effet, affronter un adversaire... est intéressant et au niveau des sensations,
on a la personne en face de soi. Et puis il y a tout un travail aussi sur la psychologie, sur tout ça qui est très intéressant à faire, plus que devant un ordinateur me semble-t-il. Alors les grandes nations des échecs, ça a souvent été une sorte de duel entre l'Est et l'Ouest, surtout avant la chute du mur de Berlin où il y avait le bloc soviétique d'un côté et puis quelques génies aussi de l'autre côté.
Alors même au-delà de ça, on peut dire que la puissance échiquienne suit étrangement, ou pas d'ailleurs, l'évolution historique de notre monde. Si on prend par exemple la Renaissance, on avait, et avant, au moment des grandes... des grandes découvertes, des voyages. On retrouve l'Espagne, ensuite voilà. L'Italie,
Je vous coupe juste une seconde. À peu près au Xe siècle, l'arrivée des échecs dans le sud de l'Europe. Xe siècle.
Oui, c'est parti de Bagdad. Voilà. Alors, à l'époque, c'est arrivé. Voilà. Donc, ça se développe au Moyen Âge. Bon, c'est vrai que les pièces n'ont pas forcément la même signification. Au départ, on a le vizir, la dame, ça vient beaucoup plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de la Révolution française, par exemple, un maître français, un grand maître français, Philidor, annonce que les échecs, en fait, il parle des pions. Les pions sont l'âme du jeu d'échecs. C'est assez intéressant, au moment justement où on coupe les têtes des rois, voilà, de dire qu'en effet...
Et il ne faut pas oublier qu'au jeu d'échecs, le but final, c'est de faire tomber le roi.
Alors c'est de faire d'ailleurs échec et mat, chamat, le roi est mort en persan.
À ce moment-là, le roi ne peut plus jouer, il est bloqué.
Il est bloqué. Ouais.
Donc ça peut, en effet, les révolutionnaires ont dû être très intéressés par ce jeu d'échecs.
Tout à fait. Ouais, tout à fait.
Ouais. Alors, politique et échec. Donc on a eu le célèbre match entre Bobby Fischer. Hein, vous avez entendu certainement parler ça. C'est un originaire des États-Unis. Il était de Chicago. Bobby Fischer, c'est un petit génie, hein, puisqu'il était champion des États-Unis. J'ai lu ça à 14 ans, champion des États-Unis. Oui. Et puis après, il va rencontrer le grand maître soviétique de l'époque,
Spassky.
Et ça se déroule en Islande. Oui. Et c'est la première fois, je crois, que le monde entier s'intéresse à une finale. Alors vraiment, tout le monde était passionné par ça.
Oui, c'était extrêmement médiatique, tout comme l'ère Karpov-Kasparov. Et comme aujourd'hui, je pense, avec Magnus Carlsen, le prodige norvégien.
Alors, le nouveau champion du monde est donc norvégien.
Norvégien, oui, oui.
Alors que ça a souvent été partagé entre, comme je disais, plutôt soviétique, États-Unis.
Alors, c'est vrai que depuis ces dernières années, on a eu l'émergence de l'Inde et de la Chine.
C'est ce que j'allais vous dire, il y a aussi les nouveaux.
Ouais, voilà. Et puis la France est la quatrième nation mondiale. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros effort qui est fait au niveau de la formation des jeunes. Et donc, en effet, la France tire son épingle du jeu.
Très bien. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va parler de votre club, parce que bon, ça a des grandes considérations sur les échecs. Avec vous, je suis sûr qu'on pourrait parler pendant des heures. Hein. J'en suis persuadé. Mais surtout, on va parler de votre club. Alors d'abord, comment qu'on peut vous joindre? Le plus simple, c'est peut-être un site internet, non?
Oui, le site le plus pratique, c'est le site internet. Donc, www.ecmchess.fr.
Vous tapez Échec Club de Montpellier et on vous dirige très rapidement sur tout ce qu'il faut. Donc, on ne va pas parler d'horaires, de choses comme ça, vous trouvez ça sur le site.
Il y a toutes les informations.
Voilà. Par contre, on va parler du club. Alors le club, quand même, vous êtes dans le top 12 français, je crois, hein. C'est quand même extraordinaire. Hein.
Oui. Donc à la fois chez les filles et puis ensuite pour l'équipe première qui est montée d'ailleurs l'an dernier. On a fini premier de National 1 devant Cannes, Lyon, Monaco et on se retrouve... En effet, en top 12 cette saison.
Ah, ça, c'est vraiment l'élite hein, des
oui,
échecs.
Oui, c'est,
hein.
C'est l'élite. Et on va dire que Montpellier, qui est une terre d'échecs, retrouve en fait sa place.
Sa place. Et alors maintenant, ça c'est pour l'élite, mais maintenant votre club, c'est beaucoup de gens, je suppose, des petits aux grands, des vétérans aux poussins.
Oui, c'est vrai que depuis la réunification des deux grands clubs de Montpellier, en fait, on a une progression en termes d'effectifs. Donc 477 membres, dont 300 jeunes, donc c'est assez intéressant, avec 150 filles.
Les filles, donc c'est un sport aussi féminin hein.
Eh bien, en tout cas, nous, on développe le sport au féminin.
Et puis là, on peut jouer en talon aiguille, c'est pas grave. Hein. C'est pas comme la course à pied, parce que le 100 mètres en talon aiguille quand même, ça doit être quelque chose. Hein. Les pauvres chevilles de ces filles, je oui. pense à elles, ça doit être terrible. Mais aux échecs, aucun problème.
Aucun problème.
Et vous avez un capitaine de votre équipe de top 12, qui est un grand maître international.
Oui,
hein.
Tout à fait, Fabien Libizeski.
Voilà. Alors, ça, c'est quand même très, très haut niveau, je suppose. Hein.
C'est le top niveau.
Vraiment le top niveau.
On peut pas faire mieux.
Ouais. Et donc, beaucoup d'équipes. Et puis, vous avez aussi un rôle, j'irais presque social dans l'agglomération. Hein.
Oui,
c'est très, très, très important.
D'ailleurs, ça fait partie intégrante du projet du club. Donc, en effet, l'ouverture, vous parliez d'ouverture, donc l'ouverture vers l'extérieur, puisqu'en effet, on a un rôle social, éducatif.
Scolaire.
On intervient notamment dans le cadre de dispositifs d'accompagnement éducatif, de réussite scolaire. Donc, à un moment donné, donc il y a des interventions qui se font dans les écoles, dans les collèges, et ça aboutit d'ailleurs en fin d'année, en juin en général, à un tournoi où on retrouve 250 jeunes avec pas un mot dans la salle. Donc les instituteurs sont toujours étonnés.
Ils doivent être fascinés, ils doivent se dire pourquoi je leur fais pas jouer aux échecs.
De voir 250 gamins assis, donc une compétition inter-école. Donc c'est vrai que ça. ça marche très très bien, et puis ça développe des aptitudes cognitives très intéressantes, voilà. Et ça rend confiance, justement, ça donne confiance, ça donne confiance aux jeunes, en fait.
Et je suis sûr qu'il y a des surprises, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas tellement en réussite scolaire, oui. Et puis qui doivent bien jouer aux échecs. Ben,
hein. Complètement, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'en effet, il y a le fait de reprendre conscience, quand un jeune a des résultats, des difficultés scolaires et qui bat sur l'échiquier le premier de la classe.
C'est ça. Il se venge.
Eh ben c'est possible. C'est-à-dire que ça le met dans de bonnes conditions.
Et peut-être parce que aussi le fait que ça soit un jeu, c'est ludique, donc ça leur permet de s'exprimer peut-être un peu mieux. En tout cas, c'est un rôle très important pour votre club et ça fait du bien à notre agglomération, hein, ce genre de rencontres entre ces jeunes et puis des gens qui sont quand même à très haut niveau parfois. Je suppose que ça doit être...
Oui, il y a un autre aspect quand vous évoquez cet aspect-là, c'est justement l'intergénérationnel. C'est-à-dire que c'est quand même le jeu d'échecs est un sport où un jeune enfant a la possibilité de jouer contre son grand-père
voilà.
Justement en compétition. Et puis par rapport au handicap aussi, c'est-à-dire qu'on va retrouver des personnes en situation de handicap qui peuvent jouer aussi contre des valides. Donc on part tous, en fait, on est tous au même niveau.
Voilà. Puis il y a un moment où peut-être les niveaux se croisent. Le jeune va dépasser son grand-père à un moment donné.
C'est dans l'ordre des choses.
Voilà, c'est dans des choses. Voilà. On va se quitter une petite seconde et puis après on fait une petite pause musicale et on revient pour parler avec vous de ce sport magnifique qui s'appelle le jeu d'échecs.
Le lancer du CD.
Eh bien, on vient d'entendre donc un morceau. Alors, on va demander à mon invité, Hervé Louche, qui est le président de l'Échec Club de Montpellier, pourquoi il a choisi cette musique et qui est-ce qu'on a entendu ? Qui en a entendu ?
Alors, vous avez entendu les Pixies, donc le morceau c'est Veluria et c'est un clin d'œil personnel.
Voilà, alors un clin d'œil. Alors, à la personne qui entendra les Pixies, eh ben, elle se reconnaîtra ?
Tout à fait.
Ou les personnes, je ne sais pas. Voilà.
La personne.
La personne. On va reprendre notre petite conversation en quelques minutes avant de se quitter. Ça passe vite, hein, vous savez, une émission de 30 minutes, on a l'impression qu'on a beaucoup de temps, puis en fait, on se rend compte que ça passe vite. Alors, peut-être quelques échéances, quelque chose à nous dire. Où est-ce qu'on peut venir vous voir jouer ou est-ce qu'on peut jouer ?
Oui, alors, c'est vrai qu'une fois par mois, il y a les interclubs, mais on organise le 16 février, donc à Montpellier, à la salle, l'ancienne salle des rencontres, dans la salle Jules Pagési, un tournoi, le championnat régional de Blitz. Donc les Blitz, c'est les parties éclairs, donc en 3 minutes plus 2 secondes par coup. Et donc là, cette compétition va permettre de déterminer le champion régional de Blitz. Et puis en mai et juin prochain, donc il y aura le top 12, donc le 24. Donc là, on va tâcher de retransmettre, comme ça se joue dans le Nord, on va tâcher de faire des retransmissions. De toute façon, c'est retransmis par Internet, mais on va essayer d'organiser quelque chose sur Montpellier avec un commentaire d'un de nos maîtres. Voilà.
Et je suppose qu'après, les parties qui ont été effectuées, on peut les retrouver sur votre site, hein, je suppose.
Elles sont mises en ligne sur le site de la Fédération.
Fédération française d'échecs, tout simplement.
Voilà, tout à fait.
Juste une question d'ordre technique. Quand on n'est pas dans les blitz, quand on est dans une partie normale, quel est le temps imparti entre deux coups là, je ne sais pas. En fait.
Alors la cadence classique, on est sur du 1h40 pour jouer 40 coups.
40 coups.
Voilà, et donc on a un incrément, c'est la cadence Fischer justement, de 30 secondes par coup. Voilà. Et puis parfois, quand on arrive au 40e coup, on a un ajout de temps de 30 minutes pour finir la partie.
Donc c'est un sport qui peut durer longtemps ?
Ça peut durer très longtemps et ça demande en effet des capacités de concentration
et de résistance. C'est pour ça que c'est physique
aussi. C'est plus une affaire de volonté que d'intelligence d'ailleurs.
Ouais. Et on peut faire, comme je disais en plaisantant, un peu, on peut faire nul aussi. Hein.
On peut en effet faire nul. Alors il y a des règles, on ne peut plus faire nul avant 30 coups par consentement mutuel. C'est pour éviter ce qu'on appelle les nuls de salon.
Oui, pour s'arranger entre eux.
Oui.
Et quand il y a un tournoi, tout le monde... tourne, on joue contre tout le monde, comment ça se passe quand il y a un tournoi ? La personne rencontre toujours un joueur, puis un autre ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez 100 joueurs, le numéro 1 va rencontrer le 50e, le numéro 2, le 51e, etc. Et puis chaque fois, on joue contre un adversaire qui a le même nombre de points que soi. Oui. Et donc, petit à petit, il y a une sélection qui se fait... où après 9 parties, on a les meilleurs qui se rencontrent pour la victoire.
Et puis des fois, il y a aussi des exhibitions, entre guillemets, où un grand maître rencontre plein de gens. Je crois que ça s'est fait avec votre grand maître, d'ailleurs.
Oui, alors on avait fait, dernièrement, on avait organisé le championnat de France féminin d'échecs au Stade Yves du Manoir. Et donc, en effet, on avait un de nos grands maîtres qui avait fait une simultanée. C'était les rencontres sportives et économiques avec des chefs d'entreprise et des présidents d'associations. Donc il avait fait sur 20 parties, 18 victoires, une nulle et une seule défaite.
Ah bah c'est formidable. Et vous voyez, cette émission est en train de prendre fin. Alors j'étais ravi d'abord de vous recevoir. Merci d'être venu jusqu'à Divergence. Si vous avez l'occasion de demander, de dire à vos joueurs qu'ils écoutent un peu cette émission, n'hésitez pas bien sûr à le faire. On pourra l'écouter bien entendu en direct. Et puis après, ça reste un petit peu sur notre site, donc on peut aussi aller l'écouter après l'émission.
En podcast.
Voilà, tout à fait. Alors écoutez, je vous souhaite tout le bien du monde pour ce sport, les échecs.
Merci à vous.
Et puis, on reviendra la semaine prochaine à un sport qui est, alors là, un peu plus dans la balle, on va dire, puisque je vais recevoir une équipe de rugby à 15, un peu particulière, ce sont Los Valens. sports divergent. Le sport d'ici, venu d'ailleurs, en 30 minutes chrono.